Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Métropolez-vous, une émission où nous avons abordé plusieurs fois le sujet de l'eau et de son assainissement et celui de la collecte et du ramassage des déchets. Les deux ne sont pas sans connexion puisque, comme vous le savez sans doute, l'eau que nous buvons au sein de la métropole toulousaine vient en grande partie de la Garonne, dans laquelle finissent trop souvent certains de nos déchets lorsque celle-ci est en crue ou parce que des personnes au comportement bien peu citoyen les jettent carrément dans le fleuve. Il suffit de se balader sur ces rives ou de jeter un œil du haut des ponts pour apercevoir sur le fond ou sur les abords des choses qui n'ont rien à y faire. Depuis près de 8 ans, une association née à Toulouse mène des actions de ramassage des déchets sur les rives de la Garonne, dans la Ville Rose, mais aussi en amont et en aval de celle-ci. Un travail colossal accompli régulièrement toute l'année grâce à de très nombreux bénévoles et participants. Cette association s'appelle Champ d'Action et j'ai invité aujourd'hui ses deux fondatrices pour faire un état des lieux de la propreté des bords de Garonne. Voilà le vaste sujet de cette émission. Les deux fondatrices de Champ d'Action sont Florence Ducroquet et Cécile Clémente, respectivement présidente et trésorière de l'association. Bienvenue également à toutes les deux et heureux de vous recevoir de nouveau puisque j'ai le souvenir de vous avoir reçu dans cette émission peu après que vous aviez créé Champ d'Action, il y a 8 ans donc.
Oui, oui.
Oui, je pense que c'était à l'époque tout neuf, tout récent. Alors pour commencer, bien justement, on va revenir un peu aux origines. Je voudrais que vous précisiez pour nos auditeurs ce que sont l'objet de Champ d'Action, ses objectifs et ses activités, et ce qui vous a amené à créer cette association au départ. Est-ce que c'est lié à un engagement, à une conviction personnelle pour la protection de l'environnement, ou éventuellement parce que vous avez fait des études dans ce domaine ?
Alors, Champ d'Action est né d'une initiative citoyenne en se rendant compte que certaines berges en sortie de Toulouse étaient jonchées complètement de déchets, mais à une quantité qui était inconcevable. On était déjà un petit peu, il y a 10 ans, on connaissait déjà un peu la pollution océanique, on commence à la comprendre et à la cartographier. Donc, on entendait parler des gyres océaniques, on savait que la pollution venait des rivières, mais on ne se doutait pas que c'était à ce point-là. Il devait y avoir une crue. Et c'est en se retirant, elle a laissé, la Garonne avait transporté des quantités invraisemblables. Et nous, on a été choqués par ça. Et on a commencé à les enlever parce que c'était insoutenable. On ne pouvait pas laisser ça. On était témoins de quelque chose sur lequel on pouvait agir. Donc on a commencé à le faire à deux. Ensuite, on a commencé à appeler les copains qui étaient aussi intéressés par le sujet. Et un jour, on a proposé l'action sur les réseaux sociaux. Et ça s'est emballé parce qu'on était une quarantaine. Donc c'était déjà pour une première relativement importante. Et France 3 était venue et France Bleu aussi, donc ils avaient couvert l'événement. Et là on s'est dit qu'il y avait une conjoncture, quelque chose qui intéressait autant les médias. Il y avait un besoin, pas simplement d'agir, mais de comprendre le phénomène. Et donc nous, ça fait 8 ans qu'on essaye de comprendre pas seulement la retirer les déchets, mais de comprendre l'impact que ça peut avoir, pas sur les océans, parce que c'est étudié et nous on n'y est pas, mais sur en tout cas la biodiversité. Maintenant notre objectif, c'est la réhabilitation des espaces naturels, c'est rendre à la Garonne ce qui est à la Garonne, aux berges, et faire de notre mieux avec la collectivité, avec les entreprises, avec les citoyens, pour essayer de, en tout cas, d'amener une connaissance du phénomène.
Comment est structurée l'association aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des antennes, plusieurs antennes, ou est-ce que vous êtes toujours vraiment à Toulouse, sur le territoire de Toulouse Métropole ?
Non, c'est beaucoup étendu. On est à la naissance de l'Espagne. Du coup, on a créé une antenne en Espagne qu'on va développer au mois de décembre. On a aussi une antenne dans le Comminges. On a une antenne autour de Toulouse et on a une antenne qui monte jusqu'au Tarn-et-Garonne. Et du coup, on essaie vraiment d'avoir un impact sur notre fleuve et notre principale source d'eau potable.
Donc, tout le parcours français depuis la frontière espagnole, mais même au-delà, quasiment depuis la source, et jusqu'à la confluence avec le Tarn, c'est à peu près ce que je crois comprendre, hein, jusqu'à Moissac, un petit peu au-delà peut-être même.
Oui, mais même l'Espagne en fait. Moi je pensais que j'avais juste à aller à la naissance de la Garonne, mais en fait quand on commence à bien connaître la région, il y a énormément de petites rivières espagnoles qui viennent de très loin et qui ne sont pas des petites rivières, qui sont même... Par exemple, si vous prenez la route à droite sur Viera, vous longez une rivière plutôt importante, Toulon, avec beaucoup de barrages, qui est pas mal polluée, pas mal fréquentée, et elle se jette directement dans la Garonne. Donc, ça remonte plus loin.
Donc, vous remontez les affluents aussi de la Garonne.
Moi, je pensais que j'avais juste allé à la naissance, mais je ne pensais pas qu'en fait, les réseaux ne se terminaient jamais et que toutes les rivières, enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas de début.
Alors, vous parlez de vos antennes, hein, de champs d'action dans la région et même maintenant en Espagne. Est-ce qu'il y a aussi des associations similaires à la vôtre qui se sont créées dans d'autres grandes métropoles françaises en prenant exemple sur ce que vous faisiez à Toulouse?
Alors, il y en a autant qui nous ont inspirés qu'on a inspirés, en fait. C'est, oui. Chacun amène un peu son...
Si on doit citer quelques grosses associations qui nous ont inspirés, on va nommer OSE, qui est une association qui s'occupe de la Loire et de la Seine. Je nettoie ma Loire également, des associations qui ramassent à la tonne, qui vont à la pelleteuse. Les quantités qu'elles ramassent, elles sont extrêmement impressionnantes. Et elles sont moins connues, mais pourtant, je pense qu'elles font le gros du boulot sur ces rivières.
Oui, alors bon, les préoccupations écologiques et environnementales, aujourd'hui étant ce qu'elles sont, pas étonnant qu'une association comme la vôtre puisse faire tache d'huile, si je puis dire. Combien de membres vous avez aujourd'hui au sein de Champs d'Action, que ce soit bénévoles ou des participants réguliers?
On a amené 30 000 personnes sur la Garonne depuis nos tout débuts. On a l'équivalent de 900 bénévoles. On a une équipe de 50 personnes. Et on a amené, 300 structures sur la Garonne aussi.
Qui travaillent avec vous lorsque vous intervenez? Pour évacuer notamment les déchets, parce qu'il y a ce que vous ramassez, mais après il faut l'évacuer évidemment. Alors sur qui vous vous appuyez pour ça, pour évacuer les déchets, ou éventuellement pour récupérer ce qui est récupérable et recyclable?
Il y a une grande partie des sorties où on est autonome. Il y a des sorties où, quand la quantité elle est beaucoup trop importante, on va devoir faire appel à énormément de partenaires. Du coup, j'en profite pour remercier Kiloutou ou Noroto qui acceptent de recevoir une quantité de pneus qui est folle. Et ils ne sont pas du tout regardants sur la taille des pneus, du coup ça nous arrange. Ou alors des clubs sportifs, c'est des partenaires. On sait que si on leur envoie un message en leur disant qu'on a un gros chantier et qu'on a besoin d'être 200 et que ça doit être fait très rapidement, on sait qu'ils seront là.
Donc vous avez vraiment des soutiens nombreux et importants. Quels sont vos principaux partenaires aujourd'hui, qu'ils soient institutionnels ou privés? Vous avez déjà cité Kiloutou, effectivement, et Noroto, il y en a d'autres.
On a le conseil régional, on a le conseil départemental, on a Toulouse Métropole, on a des villes comme la ville de Blagnac. Énormément d'entreprises, on doit avoir 150 entreprises de la région toulousaine qui nous ont déjà aidés.
Qui vous aident sous quelle forme, financièrement ou en mettant à disposition du matériel ou des matériaux?
C'est des entreprises qui sont mécènes de l'association. J'ai cité Davidson puisqu'ils étaient avec nous la semaine dernière, qui nous soutiennent depuis maintenant 4 ans. C'est l'équipe parfaite parce qu'ils n'ont peur de rien, ils n'ont pas peur des insectes, ils y vont à fond, ils nous ont enlevé 700 kilos. Ils ont l'habitude d'être avec nous et ils sont aussi mécènes de l'association. Ou alors ça peut être une entreprise qui va nous permettre de louer une salle ou de travailler avec des chercheurs ou d'accueillir des jeunes.
Alors on va parler de ces aspects-là qui sont très très importants. Je voudrais d'abord qu'on fasse un bilan maintenant. Quel bilan vous pouvez faire de vos ramassages au bord de la Garonne depuis la création de l'association il y a 8 ans donc? Le nombre de tonnes de déchets que vous avez pu ramasser, le nombre de ramassages que vous avez organisés, les participants, vous avez dit 30 000 aujourd'hui, hein, si on cumule tout bien sûr.
On est à 350 000 et on est pratiquement à 500 sorties. Je pense qu'à Noël on devrait être à 500 sorties.
C'est 450 000
451 000.
451 000,
oui, c'est ça. Kilos.
451 tonnes ramassées.
Oui.
451 tonnes ramassées en 8 ans, ce qui paraît comme ça vraiment énorme. Je ne me rends pas bien compte. En moyenne, par sortie, vous ramassez combien de tonnes? Ça peut être très variable, suivant évidemment le type de matériaux que vous allez trouver, parce qu'il y a des choses qui pèsent plus que d'autres.
Ben, on va où il y a besoin d'aller déjà, donc par défaut.
Vous repérez avant, ouais. Toujours.
On repère, ouais. Plusieurs fois même. Parce qu'il y a des contextes, et la Garonne étant un fleuve quand même imprévisible aussi, faut faire attention. Mais on est sur des quantités, on est en moyenne, on était sur 600 kilos par sortie, entre 500 et 600 kilos par action. Mais parce qu'on n'est pas que sur des plastiques aussi, il y a aussi des charges sauvages, où quand on tombe sur 200 pneus, comme c'est arrivé l'année dernière, et ben forcément ça va...
Qu'est-ce que vous trouvez essentiellement? C'est du plastique essentiellement, que ce soit des sacs ou des bouteilles?
Non, c'est quand même plus varié, c'est vraiment l'intégralité de votre maison, la toiture, la cave, les tuiles,
d'accord.
Le carrelage, votre brosse à dents, vos vêtements, tout. Une PS4, des jeux vidéo, tous les jouets de vos enfants, des déchets d'entreprise, des tuyaux, des énormes tuyaux, des tuyaux de fibre,
des
câbles. Entre Toulouse et Fenouillet, la quantité de câbles elle est astronomique. Et ils se sont pris dans les racines, c'est un cauchemar à enlever. Des énormes pneus, des pneus de tracteur, mais c'est pas, quand on trouve un pneu, on ne le trouve pas tout seul, on va en trouver 50, 200. Maintenant, on a trouvé un moteur de BMW, 6 cylindres, une espèce de merveille de technologie. Et me demandez pas ce que ça fait sur la Garonne, bon, c'est quand même...
On peut imaginer tout ce qu'on veut. Du plus récurrent au plus insolite ou au plus catastrophique, qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter comme petites anecdotes?
Le plus catastrophique, c'est les déchets qu'on trouve absolument partout dans nos rues, qui sont pourtant classés comme étant des déchets dangereux, écotoxiques, génotoxiques, c'est les mégots. On en a ramassé 400 000, mais on en a ramassé 400 000 parce qu'on a fait beaucoup plus de secteurs, en fait. Avant, on le faisait qu'une journée pendant 2 heures. Là, on le fait avec beaucoup plus de partenaires, avec l'Oncopole, avec le CHU, avec l'INSERM, plein de partenaires sociaux. Du coup, on a essayé de cadrer toute la ville de Toulouse. Et du coup, on a une idée beaucoup plus précise. Mais comme, en fait, on est partenaire de Toulouse Métropole, on leur remet cette cartographie. Et du coup, en fait, il y a des endroits très précis, comme les Carmes. Bon, c'est l'exemple qui me revient en tête, où on a eu une diminution. On commence à avoir des diminutions. Parce qu'ils y installent des réels cendriers de Toulouse Métropole. Après, on a eu un problème. Il y a un tiers de nos mégots qui proviennent de Tisséo. Du coup, l'année dernière, après ces 400 000 mégots, il s'est engagé en partenariat avec Toulouse Métropole et Adeco à installer des cendriers massivement sur la troisième ligne.
Vous, l'évolution que vous voyez depuis 8 ans dans une métropole qui a une forte augmentation, hausse démographique chaque année, est-ce que vous avez l'impression que ça se stabilise, ça augmente encore les déchets, ou ça a tendance quand même un petit peu aujourd'hui à baisser?
Pour moi, c'est en lien direct avec l'aménagement des berges de la Garonne. Vous avez deux exemples côte à côte. Vous avez l'exemple de Blagnac, vous avez l'exemple de la ville de Toulouse. Dans la ville de Blagnac, du pont de Blagnac jusqu'au 15 sol, ils n'ont pas aménagé leurs berges. Il y a juste un chemin de terre. Et ils y ont créé une zone de maraîchage. Et du coup, en fait, cette zone, elle sert justement s'il y a une crue. C'est une zone qui n'est pas constructible, il n'y a pas de construction. C'est un chemin naturel. Et du coup, en fait, on va y trouver une quantité moindre de déchets. Mais à partir du moment où dans la ville de Toulouse, la moindre berge de la Garonne est aménagée pour qu'on puisse aller faire son petit jogging ou aller balader son chien et que c'est bétonné et qu'on aménage au plus près des berges, mais du coup, on a une explosion de la quantité de déchets. Et du coup, là, il y a une discussion qui a trait aux amidonniers et aux sept-donniers parce que certaines personnes voudraient faire un aménagement au plus près des berges, mais c'est une catastrophe écologique. C'est une catastrophe si on faisait ça. On oublie, et pour moi c'est la chose principale qui devrait rentrer dans les cerveaux pour améliorer les choses, c'est qu'un aménagement des berges de la Garonne, c'est un écocide. Il y a des endroits dans Toulouse où il n'y a aucun aménagement, on va y trouver 1000 espèces, et moi j'ai découvert ce week-end une espèce d'araignée que je n'avais jamais vue de ma vie. Mais il y a des empreintes animales partout. À partir du moment où on est à la prairie des filtres, il n'y a pratiquement aucune espèce sauf des pigeons. Et les gens pensent, parce qu'il y a des arbres et qu'il y a un petit peu d'herbe, qu'ils sont dans un espace naturel. Non. À partir du moment où il n'y a pas d'empreintes animales, où il n'y a pas d'espèces, où il n'y a pas d'odeurs animales, il n'y a pas d'espace naturel. Il n'y a pas de protection de notre biodiversité. Et pourtant, en fait, une forêt alluviale, c'est cet espace entre la berge et la route, c'est ce qui protège notre eau potable, c'est ce qui la nettoie, c'est ce qui,
ce
qui la filtre. Et si on touche, par exemple, on veut faire un aménagement, un grand parc Comminges, dans l'esprit du citoyen, c'est la création d'un espace naturel. Alors qu'en réalité, quand on discute avec ceux qui sont en train de le créer, c'est un aménagement des berges. C'est chaque petite ville qui veut son aménagement. C'est-à-dire qu'on détruit un écosystème et c'est juste la création d'un écocide. Quand on passe de 1000 espèces à 2 espèces, 2 pigeons, il n'y a plus d'espace naturel.
Oui, et puis il y a l'assèchement des zones humides souvent pour créer effectivement ces zones qui sont des zones de promenade en fait, hein, pour les gens qui habitent une commune. Bon, on ne pense pas toujours à ça. Est-ce que vous êtes consulté justement par les élus, par les collectivités, est-ce qu'on vient vous consulter?
Par exemple, le maire de Blagnac, chaque fois qu'il prend une décision, va dans le sens de la protection des berges. Il vient nous dire que l'île P7, elle va être protégée, que cette zone, ça va être une zone de maraîchère, et que tous les 15 sols vont être revus pour en faire véritablement un espace naturel. Et il n'a pas du tout à essayer de nous convaincre, parce que nous, on va y trouver un nombre d'empreintes animales qui est folle. Et quand on y va avec les enfants ou avec des jeunes de Blagnac jeunes, ils vont regarder que ça. Ils vont voir le premier renard de leur vie, ils vont voir le premier écureuil de leur vie, ils vont passer des heures les pieds dans l'eau parce qu'ils y ont vu 3 poissons. Là, on a réussi son coup. Dès qu'il y a un aménagement avec une piste, où la piste elle est propre, on peut marcher, il y a 10 arbres qui s'alignent, il n'y a plus d'espèces. Et là, on est en pourparlers avec les élus à l'environnement de Toulouse pour qu'on préserve, on ne touche plus à ces espaces. Ok, on a aménagé, mais stop, si on continue à toucher à ces espaces-là, il y a quand même d'autres espèces. Ce n'est pas parce qu'on est dans une ville qu'on est censé être la seule espèce présente dans cette ville.
Parler de l'homme.
Oui, si on veut une ville verte... Il faut qu'il y ait des espèces. À la sortie de Toulouse, vous avez des serpents, vous avez des hérons sauvages, vous avez les espèces migratoires qui passent au-dessus. Là, on a réussi son coup.
Et il y a aussi des consultations sur certaines anomalies de bouche d'évacuation d'eau de pluie. Dès qu'il y a une anomalie où on arrive à identifier quelque chose de récurrent en termes de pollution...
Oui, vous êtes aux premières loges pour voir si effectivement...
Voilà. Donc déjà, ils sont au courant des quantités qu'on...
Les exutoires fonctionnent bien et qu'il n'y a pas des choses parfois qui sortent, qui ont une couleur un peu curieuse ou une odeur curieuse.
Il y a même des bouches d'évacuation d'eau de pluie qui sont installées sur des zones humides. Donc là, on est sur une aberration totale. Et si là-dessus, pour parler avec eux, on a des retours de la part de la métropole sur l'avancée des...
Donc on tient compte de vos remarques.
Oui, et on a des retours. Donc on sait à peu près ce qu'on déclare.
À quelle fréquence ont lieu vos campagnes de ramassage maintenant? C'est quasiment tous les dimanches, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et tous les dimanches de l'année, y compris l'été, pendant les vacances scolaires?
Non, il y a un ralentissement l'été, parce que sinon on perdrait beaucoup de monde. Parce qu'en fait, il fait beaucoup trop chaud.
Ouais,
et
ouais.
Surtout, ils sortent avec une trentaine de boutons sur le visage.
On
n'est pas les bienvenus en été.
Non, en été, on sent que l'humain, il est expulsé naturellement.
Par les moustiques, vous voulez dire?
Par les herbes, par
les orties,
ouais,
les ronces, et puis effectivement les moustiques.
On sent qu'il y a une pleine activité dans laquelle on doit pas être.
Si vous voulez passer un mauvais moment, allez à Fenouillet au mois de juillet. Vraiment.
Mais en tout cas, on est sur une cinquantaine d'actions parce qu'on en fait aussi en semaine.
Et puis surtout, l'hiver, il n'y a plus du tout de végétation. Du coup, les déchets, on les voit bien. On ne dérange personne. On n'a pas chaud.
Puisqu'on parle du côté désagréable du fait de ramasser des déchets, évidemment, il y a les risques de se couper. Mais ce qui veut dire qu'il faut être équipé. Alors, pour les équipements, est-ce que c'est vous qui conseillez les gens qui viennent, prenez telle ou telle chose, ou est-ce que vous pouvez fournir éventuellement certains équipements?
On fournit tout. En fait, le but de Champ d'Action, c'est de simplifier la venue des personnes. Donc, on s'occupe de tout et on envoie effectivement, lors de l'inscription, une fiche qui va expliquer ce qu'il faut. Et on fournit le matériel nécessaire pour l'action, en tout cas pour le ramassage.
Donc il y a des gants, il y a des bottes, il y a éventuellement des waders pour ceux qui sont obligés de rentrer dans la Garonne ou dans les bras morts de Garonne.
Alors je vous rassure, on vous jette pas dans la Garonne tout de suite, c'est-à-dire qu'il faut un peu d'expérience avant et après on peut y aller. Mais c'est jamais vraiment, c'est toujours dans les bras morts principalement. Mais oui, on fournit effectivement les gants, les bottes si besoin, les pinces de ramassage, les sacs poubelles.
Et surtout on adapte les sorties en fonction du niveau de la Garonne. Du coup actuellement elle est rapide. N'allez pas organiser un ramassage en ce moment sur les berges de la Garonne. Elle a l'air calme, elle n'est pas du tout.
C'est quand même une rivière qui est un courant qui peut être assez puissant par endroit. Donc effectivement, je pense qu'il faut faire attention.
Des courants qu'on ne voit pas à la surface, mais qui sont...
Et le fond est très irrégulier.
Ouais, vous la connaissez bien?
Je la connais bien. Je sais qu'on peut s'avancer parfois assez loin et d'un seul coup, vous allez avoir 2 mètres d'eau. Donc bon, quand on ne connaît pas, je préviens quand même les gens. Ne vous aventurez pas comme ça dans la Garonne, même si elle ne vous semble pas dangereuse. Est-ce qu'il y a une protection civile? C'est-à-dire que l'association a une assurance qui protège les gens?
C'est obligatoire. C'est obligatoire. On ne peut pas avoir... organiser la moindre activité en France sans avoir d'assurance, et les associations qui disent le contraire ne respectent pas la législation française.
Mais c'est bien de le dire, ça va mieux en le disant. Qu'est-ce que vous faites ensuite donc, de tout ce que vous collectez? Est-ce que vous faites aussi des rapports par exemple à l'agence Adour-Garonne de ce que vous pouvez trouver, des choses, de dire là, on a trouvé quelque chose, ça nous paraît dangereux? Ou est-ce que parfois vous êtes obligé d'appeler la gendarmerie parce que vous avez trouvé une arme ou quelque chose qui peut être dangereux?
On commence à être bien rodé sur le sujet, vu qu'on a eu un mois de septembre assez animé. Du coup, on a trouvé l'arme à feu.
Alors ça, c'est déjà arrivé, je crois.
Oui, ça nous arrive souvent.
Qui ne sont pas forcément anciennes, qui peuvent être pour certaines assez récentes.
J'ai trouvé une très très belle Kalachnikov dernièrement. Je tiens à préciser, et ça c'est la police qui m'a demandé de le repréciser, l'arme, elle vous paraît très vieille. Vous trouvez une grenade, elle vous paraît très vieille. Vous vous dites, elle est inoffensive, elle a vieilli, elle a été rouillée dans la Garonne. C'est le contraire. Plus une arme a passé du temps dans l'eau, plus elle est ancienne, plus elle est instable et plus elle peut vous exploser. Et c'est la raison pour laquelle la pêche à l'aimant est interdite. Si vous enlevez ce déchet sans l'avoir identifié et qu'il est à la surface au contact de l'oxygène, il explose.
Donc il ne faut pas y toucher.
Il ne faut pas y toucher, il faut appeler la gendarmerie.
On appelle tout de suite la gendarmerie.
Et la gendarmerie, une fois sur deux, appelle le déminage parce que l'arme est instable.
Est-ce que parmi les choses que vous trouvez dans la Garonne, il y en a qui peuvent être réutilisées? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut y avoir, ce qu'on appelle l'économie circulaire, du recyclage de ce que vous trouvez?
Souvent, on a des bénévoles qui repartent avec leurs trouvailles du jour. Il y a des collecteurs Haribo qu'on a trouvé dernièrement.
J'avais vu la photo.
On trouve beaucoup de collecteurs. Moi, je récupère beaucoup de choses en métal, des objets métalliques anciens. La plupart de mes outils, je les ai récupérés sur la Garonne. Oui, on peut récupérer beaucoup de choses qui sont dans un état impeccable et il n'y a pas grand-chose à faire pour les restaurer. Et après, il faut respecter toutes les filières qui ont été créées en France, notamment la filière de la pile, parce qu'il y a quand même 2/3 des piles qui sont achetées en France et qui sont encore dans vos tiroirs. Et pour autant, il y a une filière qui a été créée. Et une pile, c'est pratiquement une des principales causes de conflits dans le monde, parce qu'il y a des métaux rares à l'intérieur. Et les récupérer, ça ferait une belle économie au niveau français, puisqu'on les réinsérerait plutôt qu'à les déterrer.
Alors bon, la situation est ce qu'elle est. Là, vous avez un petit peu quand même brossé le tableau, mais on voit que ce n'est pas encore terrible ce qu'on peut trouver au bord de la Garonne et dans la Garonne. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse aujourd'hui pour que la situation s'améliore? Est-ce que ça passe avant tout par la sensibilisation, et notamment la sensibilisation des plus jeunes?
Elle est évidente, parce que y a la sensibilisation, c'est la base de tout, c'est avoir conscience de ce qu'on consomme, de ce qu'on fait et comment on vit en société en fait. Donc c'est indispensable. Il y a la découverte de la nature qui peut apporter aussi une réelle envie de comprendre ce qu'est la protection des milieux. Donc ça, ne pas hésiter à aller se balader justement sur les berges tout en gardant certaines précautions évidemment. Mais la chose la plus importante, c'est que tant qu'on produira certains types de déchets, comme les mégots de cigarettes, les mégots sont pas du tout indispensables à l'objet de fumer, c'est même pire. Tant qu'on fabriquera, tant qu'il y aura des échecs internationaux sur les accords pour limiter la production de plastique, on aura toujours des plastiques, on aura toujours des mégots. Donc on peut, et nous, il y a toute une part citoyenne qu'on doit prendre en compte de la considération de l'objet, du déchet et de sa toxicité dans l'environnement, c'est évident. C'est ce qu'on essaye de faire, de la diffuser. Mais tant qu'on sera dans une forme de production, on tombera certainement sur le même problème.
On ne peut pas s'exclure de cette problématique. Moi, c'est mon point principal, on ne peut pas s'en exclure.
Et personne ne peut s'en exclure.
Moi, on a ramassé 450 000, mais il n'y a aucun de mes bénévoles qui va dire « je ne suis pas concerné ». C'est ces déchets. Je veux dire, à partir du moment où on est la région de France, on a le plus haut niveau de production de déchets par habitant, qu'il y a 1/3 des vêtements de notre placard qu'on n'a jamais portés, qu'on ne portera pas, que 40% des produits de notre frigo sont des produits qu'on jette et 40% sont encore comestibles, c'est des questions à se poser par rapport à soi-même. Si on surconsomme, forcément, les poubelles débordent et se retrouvent sur la Garonne.
Oui, il y a la question quand même en amont de notre manière de consommer. Que consomme-t-on? Pourquoi le consomme-t-on? Et qu'est-ce que ça devient, ce qu'on
vêtements,
consomme?
Les vêtements, par exemple, les vêtements qu'on a sur soi. La plupart du temps, vous allez voir les gens dans la rue à Toulouse, c'est du plastique. On se pose la question du contact entre nos aliments et le plastique, entre le film alimentaire et les aliments, de la transmission de ces molécules dans notre alimentation. À quel moment on se pose la question de la transmission de ces molécules qui sont sur nos vêtements, dans notre peau? Et l'Université de Berlin a montré tout récemment qu'il y avait une transmission, notamment sur les vêtements de sport, qui contiennent énormément de molécules chimiques. Tous les vêtements chez Decathlon que vous emmenez en montagne contiennent ces molécules chimiques. Ils ont étudié les vêtements de ces marques. Il y a une atteinte à notre système immunitaire. Il y a une transmission à la peau, il y a une transmission au foie qui est extrêmement rapide. Et du coup, c'est se poser cette question. Si vous portez un vêtement en coton, en lin, en laine, mais vous n'avez aucun impact. Si vous avez des plans en verre ou en inox chez vous, mais vous n'avez aucun impact. Mais à partir du moment où tous vos vêtements sont en plastique, à la moindre machine à laver, toutes ces fibres, elles sont dans la Garonne. C'est très facile de changer des petites choses chez soi, mais surtout si vous avez des enfants.
Encore faut-il en être conscient.
Acheter des vêtements en laine, en coton,
c'est quelque chose qui n'est pas forcément su, qui n'est pas forcément communiqué. On parle quand même d'objets qui sont vendus librement en fait, dans nos supermarchés.
On va terminer sur des informations très pratiques. Si on est témoin d'abandon d'un objet dans la nature ou qu'on constate une décharge sauvage, d'abord, quelle est l'attitude à adopter? Donc, ne pas toucher quelque chose si on ne sait pas trop de quoi il s'agit, pour ne pas se blesser ou pour ne pas se faire exploser quelque chose à la figure. Et qui doit-on appeler en priorité? Par exemple, à Toulouse, il faut appeler Allo Toulouse, c'est le numéro Allo Toulouse?
Oui, c'est ça. C'est le numéro le plus efficace en fait pour certains types de déchets sauvage qu'on peut trouver.
Et est-ce qu'on peut vous appeler, vous, directement?
Si c'est près d'une rivière, c'est ça.
Voilà.
Nous on protège la Garonne et les rivières, nos cours d'eau.
C'est déjà beaucoup.
Et on ira avec plaisir les ramasser, on organisera une sortie.
Si c'est le canal, ça peut être Voie Navigable de France qu'il faut appeler, ou c'est toujours Allo Toulouse?
Mais on est partenaire du canal de... Voilà, on organise des sorties avec eux, et du coup, si c'est le canal se jetant à certains endroits dans la Garonne, et à certains endroits, comme ça devient une réserve d'eau potable. À partir du moment où l'eau est une réserve d'eau potable, oui.
Et la prochaine sortie, alors, organisée par l'association, c'est quand et comment on s'inscrit? Comment on se tient au courant de vos actions?
Alors, la prochaine action, c'est dimanche aussi. Ça sera à Beauzelle ou Blagnac.
Beauzelle ou Blagnac?
Alors, pour nous trouver, effectivement, vous avez tous les réseaux sociaux. Si vous n'arrivez pas, nous on est champ d'action, mais si le nom ne vous revient pas en tête, vous tapez Association Nettoyage Garonne, vous tombez directement sur nous et vous avez justement le site internet qui vous permet de vous inscrire.
Et puis je voulais souligner avant de terminer que vous venez d'être distingué par un prix. Alors c'est pas le premier que vous recevez, mais celui-ci, je vous tiens beaucoup à cœur, je crois, parce que c'est un prix pour la protection de la biodiversité.
Oui, les gens nous ramènent toujours à la propreté. Moi, si c'était une question de propreté, je n'en aurais rien à faire. Vous devez associer les déchets et les rivières à votre santé et à la protection de la biodiversité. Ça a été reconnu comme l'une des principales causes de disparition des espèces. Et ça nous touche, et ça touche beaucoup les bénévoles, surtout les plus jeunes, qui ont pu aller voir leur maîtresse en disant qu'ils venaient de gagner un prix de protection de la biodiversité. Et ça veut dire que autant il y a 7 ans qu'on est venu ici, les gens faisaient pas le lien, ils nous ramenaient toujours à la question de propreté. Dans l'esprit des gens, ils comprennent qu'on est en train de protéger la biodiversité et du coup ce prix nous fait beaucoup de bien. Ça signifie aussi que il y a des endroits où il y a plus aucun déchet qui est jamais revenu. Là, on a enlevé plusieurs tonnes, il y a des forêts qui ont été recréées. Je tiens à remercier le Stade Toulousain, les équipes féminines du Stade Toulousain qui ont enlevé 2,4 tonnes. Au sud de Toulouse. Fiona Lecat, qui est une joueuse du Stade Toulousain, m'a posé la question de savoir à quoi ça servait de revenir perpétuellement. Je tiens à leur dire qu'elles ont créé une forêt, parce que nous, on ne retrouve pas l'endroit, on n'y a retrouvé que une forêt qui s'est recréée, des espèces animales et des empreintes. Et ça, c'est notre plus belle récompense, c'est d'avoir recréé une 20aine de forêts sur nos ramassages et où les déchets ne sont jamais revenus et les décharges ne sont jamais revenues.
Eh bien, nous allons conclure cette émission là-dessus. Je pense que c'est une belle conclusion. Je vous remercie d'avoir participé toutes les deux à ce numéro. Il y a vraiment beaucoup à faire pour la propreté de la Garonne et pour la biodiversité. Alors, je signale à ceux qui veulent vous soutenir et s'investir dans votre association qu'ils peuvent se renseigner et connaître les dates de vos actions de ramassage des déchets en consultant votre site web www.champdaction.com. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri à la technique Coraline Camebrac. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Très bon week-end à tous.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.